à chacun. Tu sais avec quoi nous venons devant toi. Nous n'avons pas besoin d'embellir nos images, Seigneur, nos portraits, parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et ce matin, tu sais aussi de ce dont chacun a besoin. Et nous te demandons toute ta grâce, la puissance du Saint-Esprit, pour que chacun soit fortifié et puisse repartir en levant les yeux vers Christ. Amen. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai d'abord une question. Quel est le point commun entre les petits-enfants qu'on voulait amener à Jésus et Zachée? Un point commun, il y en aurait plusieurs, mais qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Ah. Zachée est petit comme les petits-enfants, voilà. Mais si jamais je rajoute Bartimée, l'aveugle de Jéricho, est-ce qu'il y a encore un point commun entre les trois?
Dérangé.
Ben écoutez, on va lire ces trois petits passages. Donc, le premier, c'est dans Matthieu 19, les versets 13 à 15. Matthieu 19, 13 à 15. Alors, on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Dans d'autres évangiles, il est dit, « Il les bénit, il les embrassa. » Donc, on a vu Matthieu, on a vu les petits-enfants, on va regarder Zachée. Dans Luc 19, 1 à 5, Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et pour Bartimée, l'aveugle, en Marc 10, les versets 46 à 52, chez moi il y en a 53, voilà. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabboni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Les disciples veulent empêcher les enfants d'accéder, de s'approcher de Jésus. La foi, c'est du sérieux, n'est-ce pas? On ne va quand même pas déranger Jésus pour des enfants. On ne dérange pas le maître pour des gamins, des mômes, comme on dit aujourd'hui. La foule est un barrage pour Zachée. Il est de petite taille et personne ne va faciliter l'accès auprès de Jésus à ce chef de collecteur d'impôts, un collabo. On ne peut pas ouvertement s'opposer à lui, à cause de son statut, de sa position. Hein. Il est chef des collecteurs. Si on s'oppose à lui, on risque des retombées, hein, des retours de bâton. Donc, c'est avec un malin plaisir que l'on crée un mur pour lui barrer la vue. Tu ne passeras pas. Lorsque Bartimée interpelle Jésus, en criant son nom, il se fait reprendre. En allemand, dans la Bible de Luther, il est dit « bedrohen », ça veut dire « menacer », hein, c'est fort, par la foule. Lui, un mendiant aveugle, fait partie des méprisés, ignorés de Jéricho. Comment peut-il se permettre de hurler le nom de Jésus alors que c'est un jour de réjouissance à Jéricho? Il demande la pitié. Pour les petits-enfants, les parents, les mamans j'imagine, ne se laissent pas dissuader. Elles croient que Jésus a une bénédiction pour chacun des petits. Elles ont osé faire remarquer, elles ont osé se faire remarquer par Jésus et ont bravé le refus des disciples. Et Jésus bénit les petits. Zachée ne peut pas franchir la barrière humaine, alors il la contourne, précède la foule et s'installe en hauteur dans un lieu de passage obligé sur le chemin de Jésus. Il n'a pas peur de se ridiculiser. Un nain de haut rang social qui grimpe dans un sycomore. C'est un peu loufoque. Jésus entre dans la maison, dans la vie de Zachée. On a lu ce court dialogue et Jésus entre dans sa vie. Bartimée l'aveugle, qui avait entendu parler de Jésus, a compris que Jésus seul pourrait le sortir de sa nuit. Ce jour, pour lui, c'est le moment. Jésus ne sera certainement plus aussi proche de lui. Il fallait être à l'écoute, et un aveugle sait mieux écouter qu'un voyant. Il est convaincu, il faut mettre le paquet. Tant pis pour les convenances, il crie très fort. On veut le faire taire, il crie beaucoup plus fort. Et Jésus entend sa détresse, appelez-le. Jésus exauce la requête, il est guéri et il suit Jésus dans le chemin. Les disciples, bien pensants, veulent protéger l'intimité de Jésus. Leur cercle veut filtrer l'accès au maître. La foi est une affaire d'adultes, d'hommes surtout, n'est-ce pas, à l'époque. Bon, ici, ils sont un peu plus clairsemés qu'il ne faudrait. La foule veut empêcher Zachée, un traître à Israël, à voir Jésus. Elle veut aussi faire taire Bartimée, le mendiant aveugle. On veut donner une image respectable de Jéricho. Zachée, je vous fais remarquer, c'est à l'entrée de Jéricho. Quand Jésus entre dans Jéricho, c'est là qu'il rencontre Zachée. Il passe chez lui, je ne sais pas s'il passe la nuit, en tout cas il mange chez lui. Et en sortant, c'est Bartimée qui est sur son chemin, à la sortie de la ville. On veut la fête, mais surtout pas de personnes qui sortent du lot pour une rencontre personnelle avec le Christ. Et ça, c'est aussi aujourd'hui. Hein. On aimerait bien que ce soit une belle fête, mais si quelqu'un dans la foule veut sortir et vraiment suivre Jésus, là, on freine quand même. On trouve beaucoup d'exemples d'empêcheurs, de constructeurs d'obstacles dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'objectif, c'était d'empêcher Israël d'accéder à la terre promise. Israël avait une promesse, je vous donnerai un pays, et l'objectif de tous les peuples alentour, c'était de les empêcher d'accéder à ce pays que Dieu leur avait promis. Pharaon a refusé de laisser partir Israël. Il a tout mis en œuvre. Et il était buté, borné, et son armée a été engloutie. Amalek s'est dressé sur le chemin alors qu'Israël ne voulait rien. À peine sorti d'Égypte, on en a parlé récemment, Amalek s'est dressé sur le chemin, c'est là où Josué s'est battu, que Caleb, Aaron et Moïse étaient sur la montagne et qu'ils soulevaient le bâton et qu'ils ont gagné. Sihon, un peu plus tard, roi des Amoréens, refuse le passage à Israël. Israël a demandé simplement de passer, ils ont promis, on ne touchera pas, on passe tout droit, on ne prend même pas votre eau, on ne prend rien du tout. Et Sihon lève une armée et attaque Israël. Et Israël a conquis ces terres, c'est les premières terres dont ils ont hérité, par le fait de s'être fait attaquer. Et tant qu'Israël en appelait à Dieu, celui-ci changeait les obstacles en tremplin. Même aujourd'hui, parfois, quand on voit un peu l'histoire d'Israël, on leur a donné un tout petit bout de terrain en 1948, et puis ils se sont fait attaquer par une ligue, et ils ont refoulé tous ses ennemis en quelques jours, et Israël était déjà 4 ou 5 fois plus grand. Et chaque fois qu'ils ont été attaqués, Israël s'est de nouveau élargi. Je ne dis pas que... Mais voilà, c'est des faits. Israël doit se confier à Dieu et non à sa force, sa sagesse propre. Il fallait garder la vision de la terre promise. Ça, c'est important pour nous aussi. Garder la bonne vision, pourquoi nous sommes là. Israël devait garder cette vision et comme ça, il savait... Dieu marche avec nous. Quand Israël a pensé faire comme les autres, ça s'est dégradé. Les disciples ont dû apprendre qu'ils étaient censés être des facilitateurs d'accès au Seigneur et pas mettre un rempart autour de lui. Des canaux, des canalisations et non des barrages, si je peux prendre cette image. Un canal ou une canalisation, ça laisse passer le flux. Un barrage, ça stoppe tout. Des panneaux indicateurs et non des barrières. J'ai travaillé à la route, quand on voulait empêcher les gens, on mettait des barrières, mais il vaut mieux être un poteau indicateur pour montrer la bonne direction. Des porteurs de grâce et non de loi. Combien de fois dès que nous sommes confrontés à une situation, à quelqu'un, nous retombons dans la loi et nous voulons passer par là et imposer quelque chose, alors que nous sommes des porteurs de grâce. Refléter Jésus et donner envie de le rencontrer, c'est ça notre mission. Ce n'est pas de barrer la route vers lui. Quand Philippe a vu Nathanaël, il a dit « Écoute, je crois que j'ai vu Jésus, j'ai vu le Christ de Nazareth. » Alors il dit « Il ne peut rien venir de bon de Nazareth. » Il a dit « Viens et vois. » Il a insisté, il a dit « Viens et vois. » Et quand Jésus l'a vu, il est allé vers lui. Dans Jean 12, des Grecs sont venus voir le même Philippe et ils ont demandé à voir Jésus. Philippe n'était pas trop à l'aise, c'est des Grecs qui adoraient à Jérusalem, mais il n'était pas trop à l'aise. Il est allé voir André, il a dit « Écoute, qu'est-ce qu'on fait là ?» Et ce n'est pas une honte. Et ensemble, ils sont allés voir Jésus. Ils ont ouvert la route à ces Grecs. Pour être facilitateur d'accès au Seigneur, notre vie doit transpirer de l'espérance de la vie éternelle. Israël, tant qu'ils avaient la vision de la terre promise, ils avançaient. Dès qu'il manquait du pain, il manquait de l'eau, il manquait ci ou ça, ils ont oublié l'avenir, ils regardaient en arrière. Ah, c'était bien l'Égypte. Là aussi, on en a déjà parlé. Notre message que nous avons à apporter, c'est le salut par la grâce imméritée et rien d'autre. Si nous perdons cette vision, nous nous imposons des règles froides et nous essayons de les imposer aux autres. Alors je vous encourage à lire, je ne vais pas le lire, je vais lire un verset dans Luc 11, les versets 37 à 52. C'est un peu dans ce contexte que Jésus a secoué les docteurs de la loi, les pharisiens, dans tous ces malheurs à vous. Et au verset 52 de Luc 11, il dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, de la connaissance du royaume de Dieu, et vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Vous n'êtes pas entrés dans le plan de Dieu et en même temps, par votre manière d'être, vous empêchez les autres. C'est là aussi, il dit, vous faites des disciples à vous qui sont pires que vous, parce que tout était centré sur eux-mêmes. Vous chargez des hommes de fardeaux difficiles à porter et vous ne les touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Ça, c'est le verset 46. Mais je vous encourage vraiment à lire dans Luc 11 ce passage, en pensant à ce message. Hein? Jésus secoue ceux qui mettent des obstacles dans la vie des autres. Et dans la loi, il n'y avait pas que la loi écrite. Ils ont débuté, les disciples se sont mis à table et tout de suite c'est parti. Ils ne se sont pas lavé les mains, ils n'ont pas fait les ablutions, ils n'ont pas fait ci ou ça. Des règles humaines, hein, qui sont sanitairement pas mal, mais que ça devienne la loi et que le reste devienne secondaire, là, ce n'est pas normal. Dès que quelqu'un veut s'approcher de Jésus, la foule, et la foule, c'est l'image du monde, la foule se dresse pour faire barrière. Comment réagir? Il faut persévérer à vouloir être dans la proximité de Jésus. C'est un combat contre des puissances. Donc, les femmes, malgré tout, se sont approchées de Jésus, malgré le barrage des disciples. Zachée a contourné l'obstacle et Bartimée a crié plus fort, sans honte. Dans Actes 13, il y a un passage que j'aimerais lire. Actes 13, les versets 6 à 12, c'est lors du voyage missionnaire de Saul, à l'époque il s'appelait encore Saul. Ayant ensuite traversé toute l'île, ils sont à Salamine, jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elymas, le magicien, c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Il fait obstacle. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Il n'est pas frappé par l'action de Paul, il est frappé par la doctrine du Seigneur. Mais Paul a dû réagir vivement, presque brutalement, hein. Par rapport à cet homme, il y a quelqu'un qui est volontaire pour venir à Jésus, qui veut entendre la parole de Dieu, et ce magicien met tout en œuvre pour bloquer la situation, pour qu'il n'y ait pas de fruit de l'esprit. Et Saul, par la puissance du Saint-Esprit, une fois encore, prend l'initiative. Et cet homme est vraiment frappé par Dieu pour un temps. Quand on voit bien, quand on est magicien, quand on a des pouvoirs et que tout à coup, on est aveugle et on ne peut plus rien, ça doit travailler, je suppose. Ce proconsul désirait entendre la parole de Dieu et Saul, conscient d'être du côté du vainqueur, rempli du Saint-Esprit, résiste au malin et le défait au nom du Seigneur. Et il faut vraiment être conscient qu'on est du côté de celui qui a vaincu les puissances des ténèbres. Parfois, quand on a de l'opposition, on baisse les bras, on se dit « c'est pas le jour, on va ailleurs, on cherche à faire ailleurs ». Mais parfois, c'est vraiment un combat de puissance. Il nous faut retrouver cette culture du combat spirituel, parce que sinon, l'ennemi nous mène par le bout du nez et nous perdons notre temps et notre route. Face à l'adversité, nous pouvons être conscients que notre Papa Céleste est de notre côté. Nous sommes appelés à amener à Christ les enfants, les blessés de la vie, comme Bartimée, les Zachée et autres personnes que humainement nous serions parfois enclins à éviter. Nous aimons quand même plutôt aller vers ceux qui nous correspondent que vers des Zachée, n'est-ce pas ? Le secret pour remplir notre mission, c'est les aimer. Sinon, nous ne ferons rien. Si nous jetons froidement juste une parole parce que nous nous sentons obligés, ce n'est pas ça ce qui va transformer une vie. Le secret pour arriver à remplir cette mission, c'est les aimer. Et le secret pour les aimer, c'est de prier pour eux. Si quelqu'un nous pèse vraiment, priez pour lui. C'est très important. Et même dans l'Église, si nous avons l'habitude de prier ensemble pour des personnes, nous ne pouvons plus être face à eux comme si c'était des étrangers. Et de plus en plus, nous les intégrons dans nos manières de penser. Et ça, c'est important. Karine a dit tout à l'heure que la réunion de prière du mardi est maintenue pour toutes les vacances. Alors, il y a des gens qui ne seront pas là, et c'est toujours un défi que j'aime à lancer. Si des gens peuvent se dégager cette heure du mardi matin, même si ce n'est que pendant les vacances, c'est un combat. Et c'est un combat que nous menons avec joie, et nous voyons quand même du fruit. Et l'Église a besoin de ce moteur. Et prier, c'est prier avec persévérance. Ce n'est pas juste un instant, on cite une fois et après on passe à autre chose. La foule, le monde, nous apprend l'égoïsme. Garder Jésus pour nous, c'est plus simple. Même ça, je vis ma foi et laissez-moi tranquille. Mais Jésus a ouvert le chemin. Le voile qui interdisait l'accès au lieu très saint a été déchiré. Là, il y avait un obstacle, impossible à franchir, interdit. L'homme est pécheur, le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait écarter le rideau et, après beaucoup d'ablutions, pouvait entrer et offrir les sacrifices. Mais aujourd'hui, Jésus a déchiré ce voile et il n'y a plus d'interdit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors soyons sel et lumière pour nos contemporains. Ce n'est pas à nous d'ériger des barrières, mais plutôt à indiquer le chemin de la vie, le chemin de la liberté. Restons conscients que nous portons ce trésor dans des vases de terre, comme dit Paul. Si nous voulons le sécuriser avec des moyens humains, nous pouvons renforcer ce vase avec du béton armé, n'est-ce pas ? Au lieu d'avoir une poterie, pour qu'elle ne se casse pas, aujourd'hui, on sait faire, on fait une belle corbeille autour, on met du béton. Mais Nous pouvons renforcer, mais nous serons un gros obstacle au lieu d'être un outil fragile mais efficace. Être dans le plan de Dieu, c'est ouvrir, œuvrer, pardon, avec Christ, c'est montrer, faciliter l'accès au trône de la grâce. Ça, c'est notre mission. Faciliter l'accès au trône de la grâce à tous nos contemporains. Et il y a du boulot, mais que cela soit pour nous une motivation, non pas créer une zone de sécurité où nous nous sentons bien, mais ouvrir les portes et ouvrir la voie pour que beaucoup puissent encore voir la grâce de Dieu. Amen.